Croyez-vous au véritable évangile, Roderick Meredith? Quel message Jésus a-t-il réellement prêché? Le savez-vous? N'en soyez pas si sûr. Que voulez-vous dire en utilisant l'expression « le royaume de Dieu » Voici la bonne nouvelle. Un nouveau monde approche. Cette brochure n'est pas à vendre. Elle est envoyée gratuitement sur simple demande à titre de service éducatif rendu au public. TGF édition 1.0, octobre 2019. Titre original « Do you believe in the true gospel ?» Copyright 2015, Living Church of God, tout droit réservé. Table des matières, chapitre 1, un message sur le messager, page 5. Chapitre 2, qu'est-ce que le royaume de Dieu, page 15. Chapitre 3, le seul nom qui peut nous y mener, page 33. Chapitre 1, un message sur le messager. Votre éternité dépend de votre volonté à comprendre et à croire au véritable évangile. L'apôtre Paul mit en garde les chrétiens de son époque. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. 2 Corinthiens 11 au verset 4. Des millions d'hommes et de femmes sincères ont supporté un faux évangile, car ils ont été séduits, beaucoup trop facilement séduits. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas obéi au commandement divin d'examiner toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, au verset 21. Comme le traduit la version Parole vivante, je cite, « Mettez tout à l'épreuve, vérifiez si ce qu'on vous dit est exact. » Jésus-Christ déclara, je cite, Le temps est accompli et le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Marc 1 au verset 15. Ostervad. Croyez-vous au même évangile que celui prêché par Jésus? Vous devez en être sûr, car de nos jours, de nombreux évangiles différents sont annoncés dans le monde. Avez-vous déjà entendu des discours semblables à celui présenté ci-dessous? Je cite. Donnez votre cœur au Seigneur. Jésus est né dans une crèche en tant que le Christ, le Fils de Dieu, pour sauver toutes les âmes prêtes à l'accepter dans leur cœur. En grandissant, il fit des miracles et il pardonna aux gens. Il observa la loi difficile de Dieu pour nous tous, avant d'être cloué sur la croix avec cette loi archaïque. Il ressuscita d'entre les morts le troisième jour et il apparut à de nombreux témoins. Puis il retourna au ciel et il commença à établir son royaume dans le cœur des hommes. Vous devez juste l'accepter. Il pardonnera alors vos péchés et il entrera dans votre cœur. Tel que vous êtes, Jésus vous sauve. Croyez seulement en lui et vous serez sauvés, nés de nouveau. Lorsque vous mourrez, vous irez le rejoindre dans les cieux pour l'éternité. Jésus a-t-il réellement enseigné un tel évangile? Si vous avez accepté, sans vous poser de questions, la voie quasi unanime du christianisme traditionnel à cet égard, vous pensez probablement qu'il s'agit de la vérité. Mais voyez plutôt ce qu'a écrit Mark Twain. Je cite. En matière de religion et de politique, les croyances et les convictions sont, dans presque tous les cas, acquises en seconde main, sans être soumises au moindre examen, auprès d'autorités qui n'ont pas personnellement examiné les dogmes dont il est question. Mais les ont-elles même reçues en seconde main d'autres autorités qui n'étaient pas davantage portées à les examiner et dont les opinions à ce sujet ne valaient donc pas tripette? Autobiographie de Mark Twain, édition du Rocher, page 559, traduction Béatrice Vierne. Connaissez-vous réellement ce que contient le véritable évangile prêché par Jésus et ses apôtres? Ou vous êtes-vous contenté d'une simple hypothèse en suivant la foule, comme Mark Twain le fit remarquer? Et en fondant vos croyances sur des opinions de seconde main? Un évangile conforme à la compréhension générale vous a probablement été enseigné. Peut-être l'avez-vous découvert au milieu du flot de publications et d'émissions religieuses produites à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, vous n'avez probablement jamais songé à remettre en question vos croyances. Après tout, si la plupart des autorités chrétiennes sont unanimes à ce sujet, elles doivent avoir raison. Est-ce vraiment le cas? Dans la célèbre prophétie donnée sur le mont des Oliviers, Jésus-Christ avertit. Je cite « Prenez garde que personne ne vous séduise. car plusieurs, beaucoup, du grec polus, viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24, versets 4 et 5. Beaucoup de versions modernes ou actualisées de la Bible mettent entre guillemets la phrase « C'est moi qui suis le Christ », en supposant que Jésus parlait d'individus qui prétendraient être eux-mêmes le Christ en personne. Mais au cours des siècles, nous n'avons pas vu beaucoup d'individus de ce genre être pris au sérieux et encore moins parvenir à séduire beaucoup de gens. D'autres proposent une interprétation différente en disant que Jésus se référerait à des individus qui prétendent être un sauveur, comme ce fut le cas d'Hitler ou de Mussolini. Affirmer de telles choses revient à prendre de grandes libertés avec le texte original. Rappelez-vous que le Christ a dit « Plusieurs viendront sous mon nom ». Le sens littéral de ce verset est « Faites attention à ce que personne ne vous induise en erreur, car beaucoup se présenteront en utilisant mon nom. Ils diront que je suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. » Quel avertissement étonnant! Le Christ prédit que beaucoup de faux prédicateurs parleraient à son sujet et proclameraient qu'il est le Christ, le Messie attendu. Pourtant, il est prophétisé que ces imposteurs, tout en reconnaissant la messianité de Jésus, séduiront ceux qui ne seront pas sur leur garde, et ils les détourneront de la compréhension du véritable évangile de Jésus. Qu'en est-il de vous? Se pourrait-il que vous ayez été séduit? N'acceptez pas des hypothèses sans les vérifier. Cherchez, prouvez la vérité. Alors vous connaîtrez réellement la vérité et personne ne pourra vous manipuler. De fausses hypothèses et de faux espoirs. Jésus déclara au sujet de certains faux enseignants religieux de son époque « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Matthieu 15, au verset 8 et 9. Il dit clairement qu'il est possible de l'adorer sans but, inutilement, si cette adoration est basée sur des doctrines issues d'une vision erronée d'hommes qui interprètent les Écritures, plutôt que sur l'enseignement clair et limpide de la parole de Dieu. Quel est donc l'évangile prêché par Jésus? A-t-il simplement demandé aux gens de croire en lui? Ou était-ce beaucoup plus profond que cela? C'est une question essentielle. En effet, si vous croyez à un mensonge plutôt qu'à la vérité, vous finirez avec une montagne de faux espoirs et d'attentes insatisfaites. Le Christ expliqua le sort difficile de ceux qui s'attachent à de faux espoirs. Vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. » Luc 13, au verset 25 à 28. Dieu accorde-t-il beaucoup d'importance au fait que vous adhériez strictement ou pas à l'évangile prêché par le Christ et ses apôtres? Par l'autorité de Jésus-Christ, je vous affirme que cela fait une très grande différence. Après sa crucifixion et sa résurrection, Jésus apparut à ses apôtres et il leur confia cette mission. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16 au verset 15 et 16. Plus tard, le Christ inspira l'apôtre Paul à prononcer une double malédiction sur quiconque oserait prêcher un évangile différent. Il écrivit aux chrétiens à Galates. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates 1 au verset 8 et 9. L'apôtre Paul déploya beaucoup d'efforts pour mettre en garde les chrétiens de Corinthe contre les faux ministres qui viendraient prêcher un autre Jésus et proclamer un autre évangile. 2 Corinthiens 11 au verset 4. C'est pourquoi je vous dis, en tant que ministre du Christ, qu'il est extrêmement important pour vous et pour votre salut de connaître le véritable Jésus-Christ de la Bible et de prouver par vous-même quel est le véritable évangile qu'il prêcha. Jésus lui-même est très clair à ce sujet. Il est facile de montrer dans la Bible que l'évangile ne tourne pas uniquement autour de la personnalité de Jésus, le Fils de Dieu. Bien évidemment, Jésus est notre Messie qui versa son sang pour le pardon de nos péchés. Nous devons profondément apprécier et proclamer cette vérité, mais cela ne constitue pas l'intégralité de l'évangile. Certes, nous devons comprendre le sacrifice du Christ, et la Bible dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4, au verset 12. Par conséquent, le nom de Jésus-Christ est absolument essentiel. Mais il est totalement faux de dire que Jésus est l'évangile, qu'il est le royaume de Dieu, comme beaucoup le font. Le véritable message de l'évangile prêché par Jésus-Christ représente beaucoup plus que cela. Évangile du Christ ou au sujet du Christ. Vers la fin de l'Ancien Testament, Dieu inspira cette prophétie. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Malachie 3, au verset 1. Selon Marc 1, au verset 2 à 4, le premier messager mentionné par Malachie se réfère à Jean-Baptiste, qui prépara le chemin pour la première venue du Christ. Le Christ est ensuite mentionné comme le Seigneur, le messager de l'alliance. Il fut envoyé comme un messager. La mission d'un messager est d'apporter un message de la part de quelqu'un d'autre. Et ce que fit Jésus, comme il le dit clairement. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 14 au verset 24. Le Père envoya le Christ annoncer un message de sa part. Quel genre de message? En français, le mot évangile vient du latin evangelium, bonne nouvelle, lui-même emprunté au grec euangelion. Récompense, sacrifice, offert pour une bonne nouvelle, et euangelos, qui apporte une bonne nouvelle. Voir encore Évangile, dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 2010. Dans le Nouveau Testament, euangelion a été traduit parfois par évangile, parfois par bonne nouvelle. Le terme évangélisation, l'action de prêcher l'évangile, en est dérivé. Les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont connus comme les quatre évangiles, car ils contiennent quatre récits distincts au sujet du Christ annonçant le message de la bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Laissons les Écritures répondre à la question. Reportez-vous à Marc 1 au verset 14 et 15 et lisez ce que Dieu inspira à Marc d'écrire. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, l'évangile. Voilà ce qu'est l'évangile. Il n'y a qu'un seul évangile et il concerne le royaume de Dieu. Certains tenteront de nier l'importance du royaume de Dieu dans l'évangile en soulignant que Marc 1 au verset 1 mentionne l'évangile de Jésus-Christ. Il est aussi appelé l'évangile de Dieu, car c'est un message de la part de Dieu. Le Nouveau Testament utilise aussi l'expression « la bonne nouvelle du royaume de Dieu ». C'est la substance même de l'évangile. Voyez ce que rapporte le commentaire biblique suivant. Je cite « Les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, s'accordent sur le fait que le royaume de Dieu était le thème principal du message de Jésus. » Au total, ils contiennent une cinquantaine de déclarations et de paraboles de Jésus au sujet du royaume. Il existe donc un consensus au sein du canon sur le fait que le royaume constituait l'axe principal de la théologie de Jésus. Oxford, Companion to the Bible, 1993, page 408. Ne croyez pas aveuglément cette brochure, ni tout autre commentaire ou aide d'étude biblique. Croyez la Bible et croyez Dieu. Les gens s'égarent spirituellement car ils se fient uniquement aux hommes. Les Écritures vous ordonnent, examinez, prouvez toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, au verset 21. Vérifiez et examinez toutes ces choses par vous-même. Laissez de côté vos anciennes opinions et lisez ce que dit Dieu. Bientôt, il sera clair dans votre esprit que l'évangile du Christ est son message, un message qui vient du Père au sujet du royaume de Dieu. C'est ce que Jésus affirma après avoir enseigné dans la ville de Capernaum. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Luc 4 au verset 43. Matthieu 9 au verset 35 témoigne qu'il fit exactement cela. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Selon Jésus, quel devrait être l'objectif principal de la vie? Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6 au verset 33. Dans un passage biblique extrait de la prière modèle, que beaucoup de gens connaissent mieux sous le nom du Notre Père, Jésus a dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Matthieu 6 au verset 9 à 10. L'évangile apporté par le Christ est effectivement la bonne nouvelle de ce royaume à venir. C'est le message que Jésus prêcha. Il envoya ses disciples prêcher exactement le même message. Ils prêchèrent ce message jusqu'à la fin de leur vie. L'évangile du Christ commença à être corrompu lorsque de faux enseignants commencèrent à subvertir l'Église originelle. L'apôtre Paul avait conscience de cette falsification lorsqu'il écrivit plus de 20 ans après la mort du Christ. « Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. » Galates 1 au verset 7. Parmi le nombre croissant d'hérésies, celle qui prit le plus d'ampleur fut un nouvel évangile focalisé sur les événements de la vie du Christ et sur l'idée qu'il suffit simplement de croire en sa personne pour être sauvé. Peu à peu, donc, le véritable évangile du Christ fut supplanté par un faux évangile au sujet de la personne du Christ. Je cite, « Alors qu'il était sur la terre, le message proclamé par le Christ et par ceux qu'il envoya prêcher était la bonne nouvelle du royaume de Dieu qu'il était venu établir. » Après la mort et la résurrection du Christ, elle est devenue la bonne nouvelle au sujet du Christ. A Dictionary of the Bible, James Hastings, 1988, page 233. Qu'en est-il du nom de Jésus? Le Christ envoya ses disciples prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Luc 9 au verset 2 et 6. Lorsque les apôtres furent de retour au verset 10, le Christ les emmena dans un lieu désert. Mais les foules, ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Verset 11. Selon l'exemple et les instructions de Jésus, prêcher l'évangile signifie prêcher au sujet du royaume de Dieu. Puis, lorsqu'il se retrouva seul, avec ses disciples, le Christ leur demanda « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. » Versets 18 et 19. Le récit parallèle de Matthieu 16 fournit plus d'informations. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Versets 15 jusqu'à 17. Nous voyons que le Christ n'avait pas encore révélé sa véritable identité à ses propres disciples, mais Jésus les avait déjà envoyés prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Notez au verset 20, « Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. » Il leur donna cet ordre parce qu'ils ne voulaient pas être crucifiés prématurément. Avec ce verset, il est absolument certain que l'évangile du royaume de Dieu ne peut pas être une simple proclamation affirmant que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Nous venons en effet de lire dans Luc 9 au verset 11 qu'il avait déjà commencé à prêcher l'évangile, mais il n'annonçait pas encore aux gens que Jésus était le Christ. Certains pourraient dire « Oui, mais peut-être que l'évangile prêché par le Christ et ses apôtres portait sur le fait que le Messie devait mourir pour nos péchés et être ressuscité, sans mentionner l'identité réelle de ce Messie. » En guise de réponse, voyez ce que fit Jésus après que Pierre eut reconnu qu'il était le Messie. Je cite « Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Marc 8 au verset 30 à 33. C'est uniquement après que Pierre l'eut identifié comme étant le Christ que Jésus commença à enseigner à ses disciples qu'il serait crucifié et qu'il ressusciterait. Mais Pierre n'accepta pas très bien cet enseignement à ce moment-là. Il ne fait aucun doute que la proclamation de Jésus en tant que le Christ ressuscité ne faisait pas partie de l'évangile qu'il avait confié à Pierre d'annoncer. Pour bien clarifier ce point, voyez comment cet événement est rapporté dans Luc 9 au verset 18 à 22. Au verset 22, le Christ informe ses apôtres qu'il devra mourir et être ressuscité. Mais ils ne le comprenaient toujours pas. Le Christ dit alors à ses disciples « Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Versets 44 et 45. Jésus n'envoya pas les apôtres prêcher l'évangile en annonçant qu'il suffit de croire en la personne du Christ ou d'obtenir la rémission des péchés par son sacrifice. L'évangile ne se limite pas à parler seulement du Christ. Certes, Jésus-Christ est l'être le plus important qui ait jamais marché sur la terre. En effet, il était Dieu dans la chair, le Fils de Dieu, venu donner sa vie pour expier les péchés de l'humanité. Et il fut ressuscité pour devenir le sauveur du monde. Tout cela est exact. Cependant, malgré cette nécessité absolue, ce n'est en aucun cas le seul objectif de l'évangile du royaume de Dieu. Ce n'est qu'après sa résurrection que Jésus ajouta cet élément au message que les apôtres devaient prêcher. Alors, il, le Christ ressuscité, leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Luc 24 au verset 45 à 48. Le nom de Jésus-Christ, son véritable nom, indique qui il est, ce qu'il fit pour nous et tout ce qu'il enseigna, qu'il ordonna et qu'il défendit. Ces informations essentielles furent ajoutées pour être enseignées avec l'évangile du royaume de Dieu après la mort et la résurrection de Jésus. Est-ce une supposition? Absolument pas. Lisez le récit biblique rapportant la prédication des premiers évangélistes et des apôtres plusieurs années après la mort du Christ. Notez ce que Philippe prêcha en Samarie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Acte 8 au verset 12. La véritable Église doit prêcher ces deux éléments. Premièrement, l'évangile du royaume de Dieu et deuxièmement, le véritable nom de Jésus-Christ. Chapitre 2. Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Nous avons vu que le véritable évangile prêché par le Christ et ses apôtres concernait le royaume de Dieu. Mais quel est ce royaume? De nombreuses idées circulent à ce sujet. À l'époque du Christ, les Juifs pensaient qu'une figure, un Messie, mènerait leur nation physique dans une campagne militaire pour soumettre les autres gouvernements jusqu'à ce qu'ils règnent en maître absolu sur tous les hommes. Plus tard, un autre concept affirma que l'Église est le royaume. D'autres crurent que le royaume de Dieu est un royaume éthéré qui se trouve dans le cœur des hommes. D'autres encore conclurent qu'il doit se référer au bonheur éternel dans les cieux, car l'évangile selon Matthieu utilise l'expression « le royaume des cieux ». Certains soutiennent également que le royaume est la personne de Jésus lui-même. Je cite « Le royaume de Dieu, ou des cieux, est un sujet d'importance majeure dans la Bible pour deux raisons principales. Sa fréquence dans les trois premiers évangiles canoniques, synoptique du Nouveau Testament et la conviction qu'il se situe au centre même du message du Jésus historique. Sa signification qui découle d'un monde de monarchie et de monarques orientaux très différents des démocraties occidentales modernes a été interprétée de diverses manières. Historiquement, Il a été associé à l'état futur des bienheureux ressuscités, immortels, à l'église, à la méditation monastique, à l'extase mystique, à l'expérience de la piété religieuse, à la libération progressive de la société par l'amour, à la transformation future de ce monde, à l'espérance apocalyptique du prochain monde et à un symbole ouvert à de nombreuses interprétations. The Anchor Bible Dictionary, volume 4, page 49. L'universitaire George Ellad décrivit comment un certain théologien réduisit le royaume de Dieu au domaine du subjectif et à une compréhension au niveau de l'esprit humain et de sa relation à Dieu. Le royaume de Dieu est une puissance intérieure qui pénètre dans l'âme humaine et qui s'en empare. Il consiste en quelques vérités religieuses fondamentales d'application universelle. Ladd mentionna qu'une interprétation plus récente conçoit le royaume comme l'absolu, le tout autre, qui est entré dans le temps et dans l'espace en la personne de Jésus de Nazareth. The Gospel of the Kingdom, page 15. Il poursuivit, je cite, À l'autre extrême, il y a ceux comme Albert Schweitzer qui définissent le message de Jésus sur le royaume comme un monde apocalyptique qui doit être introduit par une action surnaturelle de Dieu. Lorsque l'histoire sera interrompue et qu'un nouvel ordre céleste commencera, le royaume de Dieu n'est en aucun cas une réalité présente ou spirituelle. Il est entièrement futur et surnaturel. Ibid. Ladd souligna également le point de vue ou l'interprétation qui associe d'une manière ou d'une autre le royaume de Dieu à l'Église. Depuis l'époque d'Augustin, le royaume a été identifié à l'Église. Je cite, « À mesure que l'Église grandit, le royaume grandit et s'étend dans le monde. De nombreux théologiens protestants ont enseigné une forme modifiée de cette interprétation, en affirmant que le royaume de Dieu pourrait être identifié à la véritable Église incarnée dans l'Église visible. À mesure que l'Église apporte l'Évangile au monde entier, elle étend le royaume de Dieu. Une version optimiste affirme que l'Église a pour mission d'amener le monde entier au Christ et de transformer ainsi le monde en royaume de Dieu. Ibid. Une de ces interprétations est-elle correcte? Où se trouve la vérité au milieu d'une telle confusion? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'un royaume? Pour comprendre le royaume de Dieu, nous devrions commencer par définir ce qui caractérise n'importe quel royaume. La première définition du mot royaume est un état régi, gouverné par un roi ou une reine. Dictionnaire de l'Académie française, 9e édition. C'est également la définition biblique d'un royaume. Quatre éléments sont nécessaires pour constituer un véritable royaume. Numéro 1. Un roi ou un dirigeant. Numéro 2. Un pays ou un territoire. Numéro 3. Des sujets ou des citoyens relevant de cette juridiction territoriale. Numéro 4. Des lois et une forme de gouvernement. Si nous enlevons un seul de ces éléments, il ne s'agit plus d'un véritable royaume. Et si nous croyons en une sorte de royaume éthéré, alors nous ne croyons pas au véritable évangile. La vérité au sujet du royaume est révélée dans la parole de Dieu. Ce que pensent les hommes peut être intéressant et séduisant pour l'intellect, mais la vérité se trouve dans les saintes écritures. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17 au verset 17. La Bible révèle que le message de Jésus concernait le gouvernement et l'administration. Il est né pour devenir le roi de l'humanité. Le prophète Ésaïe a écrit à son sujet. Je cite. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin sur le trône de David et dans son royaume, pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice, dès maintenant et à toujours. La jalousie, le zèle de l'Éternel, des armées fera cela. Ésaïe 9 au verset 6 et 7. Darby. Peu avant la conception humaine du Christ, l'archange Gabriel dit à Marie qui serait sa mère. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Luc 1 au verset 32 et 33. Lors du procès de Jésus, Ponce Pilate lui demanda s'il était roi. Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jean 18 au verset 37. Dans ce monde séduit, beaucoup trop de gens imaginent le Christ comme l'enfant Jésus dans une crèche ou comme un individu frêle et chétif cloué sur une croix. Ils ne considèrent pas son rôle de futur roi et souverain omnipotent. Le songe de Nebuchadnezzar. Quelle est la nature du gouvernement qui reposera sur les épaules du Christ? S'agit-il simplement d'une dévotion humaine au petit Jésus? Certainement pas. Le message et le plan de Dieu pour l'humanité sont cohérents. Près de 600 ans avant la naissance du Christ, le prophète Daniel fut inspiré à écrire au sujet du royaume de Dieu à venir. Pendant la captivité des Juifs sous l'ancien empire néo-babylonien ou chaldéen, Daniel servait ses maîtres dans le palais de l'empereur Nebuchadnezzar. Ce souverain mondial fut troublé par un songe poignant au point d'en perdre le sommeil. Daniel 2 au verset 1. Il devait en comprendre le sens. Nebuchadnezzar ordonna aux magiciens, aux astrologues et aux enchanteurs de sa cour de lui révéler la signification du songe. Mais ce despote rusé refusa de raconter le songe même à ses conseillers de confiance. Il exigea qu'ils lui disent d'abord quel était le songe, afin de savoir si leur interprétation était crédible. Versets 2 à 9. Bien sûr, ils en furent incapables. Versets 10 et 11. Mais Dieu avait donné à Daniel le don d'expliquer toutes les visions et tous les songes. Daniel 1 au verset 17. Lorsqu'il fut amené devant Nebuchadnezzar, Daniel 2 au verset 25, il expliqua. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Daniel 2 au verset 27 et 28, ou à la fin des jours, verset 28, Darby. L'objectif de Dieu était de révéler à ce souverain païen qu'il existe un Dieu réel qui dirige l'univers et de révéler ce qui arriverait à la fin des jours. Si vous voulez comprendre à l'avance les nouvelles passionnantes des événements à venir, dont l'aboutissement pourrait se produire de votre vivant, ouvrez la Bible, reportez-vous à cet étonnant chapitre du livre de Daniel et lisez vous-même. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Daniel 2 au verset 31 à 36. Ce songe avait-il une signification? Bien sûr, puisque c'est Dieu qui l'avait inspiré. C'était prophétique. Pourtant, certaines personnes pensent que les prophéties bibliques ne sont que de la poésie, sans aucun but, pour guider ou prédire. D'autres croient qu'elles ont un sens, mais qu'il nous est impossible de le déchiffrer, jusqu'à ce qu'elles se réalisent, voire longtemps après. D'autres encore soutiennent que la signification prophétique est sujette à une interprétation personnelle. Tous ces points de vue rejettent ou déforment un aspect essentiel du message du Christ. De telles opinions rendraient une grande partie de la parole divine inutile, car plus d'un quart de la Bible est composée de prophétie. Or Dieu nous dit que toute écriture est utile. 2 Timothée 3 au verset 16 et Apocalypse 19 au verset 10 nous enseigne que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'apôtre Pierre a écrit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1 au verset 19 à 21. Nous ne devons jamais essayer d'interpréter la Bible afin de la faire correspondre à nos idées. De plus, nous ne devons pas croire l'interprétation personnelle des autres êtres humains. Nous devons étudier la Bible en profondeur en comparant les passages entre eux. Laissons la Bible s'interpréter elle-même. Une succession de royaumes mondiaux. Daniel donna l'interprétation divine du songe de Nébuchadnetsar. Ô roi, tu es le roi des rois. Daniel 2, verset 37. Nébuchadnetsar avait assujetti d'autres royaumes aux siens. Il était le premier à se retrouver à la tête d'un empire ou d'un royaume qui dominait réellement le monde. Mais ce n'est pas par sa propre force, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Verset 37. Dieu révéla sa suprématie dans les événements mondiaux en disant à Nébuchadnetsar, « C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. » Verset 38 et 39. Avez-vous bien compris? Dieu parle ici de royaume au sens littéral, une succession de gouvernements mondiaux. Il ne s'agit pas d'un concept sirupeux et sentimentaux. Dieu rend la vérité parfaitement claire. L'empire chaldéen de Nébuchadnetsar était représenté par la tête d'or. Un autre empire devait suivre, puis encore un autre. Si vous vérifiez dans un livre d'histoire, vous verrez que l'empire perse émergea ensuite, suivi de l'empire gréco-macédonien d'Alexandre le Grand. Mais un autre empire, représenté par les deux jambes de fer, devait encore suivre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Verset 40. C'est exactement ce que fit l'empire romain. Nous voyons qu'il fut divisé en deux jambes, avec pour capitale respective Rome à l'ouest et Constantinople à l'est. Si nous comparons ce récit avec Daniel 7, ainsi qu'Apocalypse 13 et 17, nous comprenons que le système de l'Empire romain comprendra 10 résurgences ou résurrections au cours des siècles suivants. Les 7 dernières résurgences seraient contrôlées par une fausse autorité religieuse. La dernière d'entre elles correspond aux pieds et aux orteils de la grande statue de Daniel 2. Les 10 orteils de fer mêlés avec l'argile, verset 43. Un mélange fort et fragile, verset 42, symbolise 10 dirigeants politiques contemporains qui donneront leur pouvoir à un puissant dirigeant charismatique. Apocalypse 17 au verset 12 et 13. Ensemble, ces rois constitueront la dernière résurgence du 4e empire mondial. Ce dernier super-État européen apparaîtra sous nos yeux. Rappelez-vous que Daniel avait dit à Nébuchadnetsar que cette vision révélait les événements qui se dérouleront à la fin des jours. Lisons à présent les versets 44 et 45 de Daniel 2, qui expliquent la signification de la pierre qui se détacha de la montagne, sans le secours d'aucune main, pour devenir une grande montagne remplissant toute la terre, après avoir brisé la statue représentant la succession des empires humains sur le monde. C'est la révélation que nous cherchons. Voici comment le Tout-Puissant explique, avec des mots simples, ce qu'est réellement le royaume de Dieu. Dans le temps de ses rois, la dernière résurgence de l'Empire romain, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Il n'y aura plus de roi des rois, humain comme Nébuchadnetsar. Jésus-Christ régnera sur toute la terre comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Voir Apocalypse 19 au verset 11 à 16. Apocalypse 11 au verset 15 confirme la prophétie de Daniel. Lors du second avènement du Christ, de fortes voix proclameront dans le ciel. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Le monde demain sera enfin instauré. Lorsque vous étudiez la prophétie de Daniel en parallèle avec le livre de l'Apocalypse, il apparaît sans ambiguïté que le futur royaume de Dieu sera un véritable gouvernement, tout comme les empires mondiaux qui l'auront précédé. Daniel conclut, « Le songe est véritable et son explication est certaine. » Daniel 2 au verset 45. « Quelle bonne nouvelle merveilleuse et glorieuse !» D'autres prophéties du monde de demain. D'autres prophètes de l'Ancien Testament montrent clairement que le royaume du Christ sera un futur gouvernement divin exerçant une autorité administrative mondiale sur cette terre. Le royaume de Dieu a-t-il déjà été établi? La réponse est évidente à la lecture de quelques prophéties bibliques concernant le royaume à venir. Je cite. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaux, des houes, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Ésaïe 2 au verset 2 et 4, il se rendra aussi à Michée 4 au verset 1 à 3. Michée ajouta, je cite, « Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. » Michée 4 au verset 4. Qui pourrait prétendre aujourd'hui que cette prophétie s'est déjà réalisée? Devant le siège des Nations Unies à New York, il y a bien la statue d'un homme martelant son épée pour la transformer en soc de charrue. Mais il suffit de regarder les actualités télévisées ou les journaux pour se rendre compte que l'ONU n'a pas accompli cette merveilleuse prophétie, disant que les nations n'apprendront plus la guerre. Une autre prophétie célèbre d'Ésaïe devrait nous aider à examiner objectivement les arguments de ceux qui soutiennent que le royaume est déjà là. Je cite, « Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Ésaïe 11 au verset 4 à 10. L'image d'une paix mondiale, y compris au sein du règne animal, décrite par cette prophétie, a inspiré beaucoup de gens à se sacrifier et à travailler pour l'œuvre de Dieu. Jésus n'a pas accompli cette prophétie du royaume lors de sa première venue. Les ours broutent-ils de l'herbe et les lions mangent-ils de la paille? Cette prophétie doit encore s'accomplir, après le second avènement du Christ. Il n'y a aucune confusion possible. Une autre prophétie concernant le royaume de Dieu à venir se trouve dans le livre de Zacharie. Je cite, « Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Zacharie 14 au verset 7 à 9 et au verset 16 aussi. Malheureusement, beaucoup n'ont pas la foi pour croire que le Tout-Puissant entend ce qu'il dit et dit ce qu'il pense. Dans ses prophéties, Dieu a déclaré son ambiguïté qu'il transformera complètement la civilisation. Il annonça à de nombreuses reprises son règne de la fin des temps sur les nations de la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Psaume 96 au verset 13. Afin de mettre l'accent sur cette prophétie, Dieu la répéta. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Psaume 98, au verset 9. Pourquoi n'entendons-nous pas un tel évangile dans le monde actuel? Vous savez probablement pourquoi. Ce message est extrêmement impopulaire auprès de la plupart des dirigeants religieux, politiques et sociaux actuellement au pouvoir. Ils ne veulent pas perdre leur pouvoir. C'est une des raisons pour lesquelles les principaux sacrificateurs et les pharisiens cherchaient à faire mourir Jésus. Jean 11 au verset 47 à 53. Cependant, un véritable nouvel ordre mondial sera établi sous la direction de Jésus-Christ qui changera radicalement les institutions politiques et religieuses de ce monde. Croirez-vous ce que Dieu dit ou avalerez-vous les concoctions philosophiques préparées par des hommes désobéissants et pécheurs, séduits par Satan le diable, le Dieu de ce monde? 2 Corinthiens 4 au verset 4. Le Christ dit-il que le royaume est proche? Vers la fin des années 20 de notre ère, Jésus débuta son ministère et il commença à prêcher et à dire: Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4 au verset 17. Qu'entendait-il par cela? Il ne voulait assurément pas dire que le millénium était arrivé, l'époque à laquelle les épées seront transformées en socs de charrue. En effet, environ 40 ans après cette déclaration de Jésus, de terribles massacres frappèrent son peuple lorsque les Romains massacrèrent des centaines de milliers de Juifs dans une violente répression contre leur révolte entre la fin des années 60 et le début des années 70 de notre ère. Voir Luc 21, versets 28 à 31. Cette domination sanglante et oppressive des royaumes humains cupides s'est poursuivie au cours des siècles. Comment le royaume de Dieu aurait-il pu être proche? Pourtant, lorsque les adversaires jaloux du Christ l'accusèrent de chasser les démons par la puissance de Satan, il leur répondit: Et si moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Matthieu 12, au verset 27 à 28. Comment le royaume de Dieu pouvait-il être venu vers eux? Voici la réponse: par la présence du roi, le Fils de Dieu, qui proclamait l'évangile de ce royaume. Le Messie lui-même se tenait devant eux. La Bible utilise parfois les termes roi et royaume de manière interchangeable. Daniel 7 au verset 7 à 18 et 23. Alors qu'il était sur la terre, Jésus-Christ exerça par le Saint-Esprit plusieurs des fonctions caractéristiques à son statut de roi en charge d'un royaume. Une des caractéristiques frappantes du royaume de Dieu est l'intervention divine et miraculeuse. Jésus guérissait les malades, il ouvrait les yeux des aveugles, il ressuscitait les morts et il commandait les éléments de la nature comme il le souhaitait. Comme la rosée du matin, la réalité du royaume de Dieu se posait, pour un instant, pendant le séjour du Christ sur la terre, sur un monde physique en lutte pour comprendre la réalité spirituelle du Tout-Puissant. Il parlait de ses actions et de leur impact. Il ne disait pas que ses auditeurs seraient transportés dans le royaume, ni que son royaume était déjà établi. Jésus proclamait simplement que le roi du futur royaume de Dieu était arrivé. Cette réalité allait avoir de profondes répercussions. Le royaume était proche, car lors de la première venue de Jésus-Christ, sa présence et ses actions eurent un impact immédiat sur la vie de certaines personnes, avant l'établissement littéral du royaume sur la terre. Le royaume est-il apparu immédiatement à l'époque des apôtres? Nous voyons dans l'évangile de Luc que les disciples de Jésus croyaient qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Luc 19 au verset 11. C'est la raison pour laquelle Jésus leur donna la célèbre parabole de l'homme de haute naissance, aussi appelée parabole des mines. Je cite: « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit: Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire: Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Luc 19 au verset 12 à 15. Dans cette parabole, le Christ était l'homme de haute naissance. Il est allé dans un pays lointain vers le trône de son Père dans les cieux pour recevoir le royaume de Dieu. Puis, il reviendra avec, mais cela n'est pas encore arrivé. Il est toujours dans les cieux, il n'est pas encore revenu. Lors de ce second avènement, il reviendra avec le royaume. Dans la suite de la parabole, le Christ montrera comment, Ceux qui auront servi Dieu avec zèle et diligence en faisant valoir leurs capacités et leurs talents, représentés par des mines, une unité monétaire de l'époque, recevront le pouvoir de diriger des villes. À celui qui avait décuplé sa mine, Jésus dit « C'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Et lui dit « Crois aussi, sois établi sur 5 villes. » Luc 19 au verset 17 à 19. Formidable! Ceux qui auront réussi à vaincre pendant leur vie chrétienne obtiendront un poste d'autorité de gouvernement dans le royaume de Dieu. Quelle opportunité enthousiasmante de pouvoir servir les autres et de leur enseigner les voies divines. Cette étonnante bonne nouvelle est rapportée dans beaucoup d'autres passages des Écritures. Il ne s'agit certainement pas de voleter dans les cieux toute la journée. Le livre de Matthieu ne parle pas d'un royaume dans les cieux, mais du royaume des cieux. Un royaume qui viendra ou qui descendra du ciel. L'apôtre Pierre assure que notre héritage, le royaume, nous est actuellement réservé dans les cieux. 1 Pierre 1 au verset 4, mais qu'il sera apporté sur la terre par Jésus-Christ à son retour. Pas avant. Ceux en qui le Christ habite par son esprit sont les ambassadeurs de ce royaume qui est actuellement en attente dans les cieux. 2 Corinthiens 5 au verset 20. Paul a écrit « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Philippiens 3 au verset 20. Nous n'habiterons pas là-haut dans les cieux, voir Jean 3 au verset 13 ou Acte 2 au verset 29 et 34. Au contraire, le royaume descendra jusqu'à nous au retour du Christ. Jésus enseigna à ses disciples qu'une époque de jugement arrivera où il s'assiera sur le trône de sa gloire. Matthieu 25 au verset 31. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Verset 34. Il est bien question d'une époque future lorsque les justes hériteront le royaume au retour du Christ dans toute sa gloire. Pour l'instant, nous sommes les héritiers désignés du royaume qu'il apportera avec lui. Mais nous ne l'avons pas encore hérité. Le royaume de Dieu n'est pas à l'Église, mais les frères et sœurs dans l'Église devront entrer dans le royaume à une époque future. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. 2 Pierre 1 au verset 10 à 11. Le règne des saints dans le royaume. À la fin de son ministère, Jésus déclara à ses disciples. Je cite. « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. » Et celui qui gouverne comme celui qui sert, car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Luc 22, verset 25 à 29. La version Darby est plus précise. Et moi, je vous confère un royaume comme mon Père m'en a conféré un. Verset 29. Jésus donna ensuite à ses disciples un aperçu des récompenses et des responsabilités futures qu'ils recevront dans ce royaume. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Verset 30. De quoi parle Jésus ? Il désigne ici une époque future où les disciples jugeront les 12 tribus d'Israël. Jésus ne se référait pas à leur ministère immédiat. Si Jésus voulait que ses disciples comprennent que son royaume était sur la terre à cette époque-là, pourquoi donna-t-il cette réponse à Pilate? Je cite, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Jean 18 au verset 36. Même après sa mort et sa résurrection, il continua à parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Acte 1 au verset 3. Jésus choisissait délibérément ses mots. en sachant que ses disciples étaient familiers avec les prophéties d'Ésaïe, de Daniel et de Zacharie. Ces prophètes avaient clairement prédit l'instauration d'un gouvernement divin et littéral sur cette terre sous l'autorité du Messie. Les apôtres lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Acte 1, versets 6 et 7. Jésus n'a jamais contredit leur conception biblique de l'instauration d'un authentique royaume sur la terre, dominant sur toutes les nations. Il leur a simplement dit que le moment n'était pas encore venu. Sous l'inspiration divine, Daniel a prédit ce qui se passera à l'instauration du royaume. Je cite: Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, Christ. Il s'avança vers l'ancien des jours, Dieu le Père, et on le, Christ, fit approcher de lui, le Père. On lui, Christ, donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne, son royaume, ne sera jamais détruit. Daniel 7 au verset 13 et 14. Où sera ce royaume? Notez que tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le serviront. Ce royaume sera ici-bas, sur la terre, comme tant de versets le montrent. Dans Daniel 7, le prophète juif exilé vit en songe quatre bêtes sauvages, symbolisant les mêmes quatre royaumes mondiaux décrits dans le songe de Nebuchadnezzar au chapitre 2. Voyez plutôt. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Versets 17 à 18. Le verset 22 révèle que le jugement fut donné aux saints du souverain et que le temps arrivera où les saints entrèrent en possession du royaume. Version Osterval. Les saints de Dieu posséderont le royaume à cette époque, lorsqu'ils seront des êtres divins, glorifiés et immortels. Un avenir impressionnant attend les saints de Dieu. Ils recevront les pleins pouvoirs pour contribuer à apporter la joie et la paix réelle à ce monde sanglant et souffrant. Fini les solutions temporaires et inefficaces. Fini les solutions de fortune. Les saints immortels assisteront le Christ en mettant en œuvre des solutions et des réformes efficaces pour l'humanité entière. Oui, ils se joindront au Christ pour gouverner ce monde et régler les problèmes là où ils se trouvent, c'est-à-dire sur la terre, comme Jésus l'a dit: Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Matthieu 5, au verset 5. Colombe. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean a écrit que le Christ nous fera roi et sacrificateur à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Apocalypse 5, au verset 10. Osterwald. Ce même livre rapporte la déclaration suivante du Christ: À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur la nation, et il les pètera avec une verge de fer, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Apocalypse 2, versets 26 et 27. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, verset 21. Le trône du Père est dans les cieux et le Christ est actuellement à sa droite. Mais le trône du Christ, d'où les saints régneront avec lui, sera le trône de David installé à Jérusalem. Luc 1, verset 32. Nous pourrons être là, après le son de la dernière trompette prophétisée, lorsque le Christ reviendra comme roi des rois. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. 1 Corinthiens 15 au verset 51 et 52. Lorsque la dernière trompette retentira et qu'un grand séisme secouera la terre entière. Apocalypse 11 au verset 13 à 15 et Apocalypse 16 au verset 18. Les saints éprouveront sans aucun doute une joie ineffable en s'élevant dans les airs à la rencontre du Christ. 1 Thessaloniciens 4 au verset 13 à 18. Ils redescendront ensuite avec lui sur le mont des Oliviers. Acte 1 au verset 11 à 12 et Zacharie 14 au verset 3 à 4. Pour commencer leur travail consistant à apporter la paix à un monde rebelle. Sous l'autorité de Jésus-Christ, Beaucoup d'entre nous assisteront David, le roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, qui sera ressuscité et rétabli dans ses anciennes fonctions à la tête des 12 tribus ou nations d'Israël. Jérémie 30 au verset 9 et Ézéchiel 37 au verset 24. Nous connaîtrons Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, ainsi que tous les autres saints et serviteurs de Dieu, de toutes les générations. Quand nous serons alors véritablement nés de Dieu, nés de la résurrection dans le royaume familial de Dieu, les saints de Dieu, les vainqueurs, se verront confier, sous la direction du Christ, la tâche de s'occuper des tyrans qui auront mené l'humanité au bord de la destruction. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leurs bouches, et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Psaume 149 au verset 5 à 9. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean a écrit sous l'inspiration divine. Je cite « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Apocalypse 20 au verset 6. Les apôtres qui étaient remplis du Saint-Esprit et l'Église originelle de Dieu comprenaient parfaitement et enseignaient que le royaume de Dieu serait un gouvernement littéral dirigé par le Christ et les saints ressuscités. Un gouvernement qui sera établi à la fin de cette ère sur la terre. Cette merveilleuse époque à venir est souvent appelée le millénium, qui signifie tout simplement une période de 1000 ans. Dans son ouvrage « Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain », le célèbre historien Édouard Gibbon consacra plusieurs lignes à la croyance du millénium. Voici ce qu'il écrivit au sujet de l'histoire des premiers chrétiens. Je cite « L'ancienne doctrine des millénaires, qui eut tant de partisans, tenait intimement à l'opinion de la seconde venue du Messie. Comme les ouvrages de la création avaient été finis en 6 jours, leur état actuel était fixé à 6000 ans, selon une tradition attribuée au prophète Élie, voir Psaume 90 au verset 4 et 2 Pierre au verset 3 et 8. Par la même analogie, on prétendait qu'à cette longue période, alors presque accomplie, de travaux et de disputes succéderait un joyeux sabbat de 10 siècles, voir Hébreux 3 et 4, Apocalypse 20 au verset 6, et que Jésus-Christ, suivi de la milice triomphante des saints et des élus échappés à la mort ou miraculeusement rappelés à la vie, régnerait sur la terre jusqu'au temps désigné pour la dernière et générale résurrection. Tome 1, édition Lafon, page 343, traduction François Guizot. L'humanité a reçu 6000 années pour apprendre la leçon qu'elle est totalement incapable de se gouverner elle-même sans l'aide de Dieu. Le prophète Jérémie souligna que « la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas » Jérémie 10 au verset 23. Le premier président des États-Unis, George Washington, exprima le même sentiment dans une lettre datée du 31 octobre 1786. Je cite « Le genre humain, laissé à lui-même, est incapable de se gouverner. » Vie, correspondance et écrit de Washington, tome 5, pages 121 et 122, traduction François Guizot. De terribles crises à la fin de cette ère conduiront l'humanité au bord de l'autodestruction. Alors les gens commenceront seulement à réaliser la futilité de vouloir s'autodiriger. Ils auront été humiliés au point de chercher le gouvernement absolu de Dieu sur leur vie. Alors Dieu interviendra. Naître dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu régnera sur les peuples de la terre, mais ses sujets mortels ne seront pas dans le royaume, ils seront seulement gouvernés par lui. Qui donc sera dans le royaume? Pourriez-vous en faire partie? Lorsque le Christ rencontra Nicodème, ce pharisien venu le voir secrètement de nuit, Jésus alla droit au but. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3 au verset 3. Puis, il expliqua, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 6. C'est-à-dire composé d'esprit. Nous ne sommes pas encore nés de nouveau, et il en sera ainsi tant que nous n'aurons pas été changés en êtres spirituels et immortels à notre future résurrection, comme le décrit 1 Corinthiens 15. Le verset 50 du même chapitre nous assure que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. En revanche, des êtres humains de chair et de sang peuvent-ils entrer dans l'Église? Oui. Donc, l'Église ne peut pas être le royaume de Dieu. En effet, pour être dans ce royaume, nous devons d'abord être nés de Dieu, en devenant ses véritables enfants dans la famille divine. Dans toute la création physique de Dieu, seule l'humanité a une conscience et peut faire la différence entre le bien et le mal, grâce à ce que la Bible appelle l'esprit de l'homme. 1 Corinthiens 2, au verset 11. Ce dernier stimule le cerveau physique de l'homme avec l'intellect pour nous donner cette merveilleuse intelligence qui est incroyablement supérieure à celle de toute autre créature physique. Le Saint-Esprit se joint à cet esprit humain lors de la conversion. Romains 8 au verset 16. Le christianisme traditionnel confond la nouvelle naissance avec la conversion. Il n'y a pas assez de place dans cette publication pour prouver en détail ce que la parole divine révèle sur le concept de la nouvelle naissance ou le fait de naître de nouveau. Cependant, nous devons en parler brièvement car cela a une incidence directe sur la compréhension de la véritable nature du royaume de Dieu. La conversion initiale n'est que le début de la vie spirituelle, de même que la conception n'est que le début de la vie physique. Mais ce n'est pas une naissance. La naissance a lieu après une période de gestation dans le ventre de la mère. De la même manière, la naissance spirituelle aura lieu après une période de gestation spirituelle au cours de cette vie physique. C'est un processus fascinant. Lors de la conversion, notre conception spirituelle, nous devenons participants de la nature divine, de Pierre 1 au verset 4. La nature même de Dieu. Grâce à la présence du Saint-Esprit en nous. À mesure que nous croissons et que nous vainquons spirituellement, Dieu met de plus en plus de sa nature divine en nous. Finalement, nous serons prêts à naître de Dieu, comme des enfants à part entière lors de la résurrection. Jésus doit être le premier-né de beaucoup de frères. Romains 8 au verset 29. Ou comme le traduit la version Parole de vie, son fils sera l'aîné d'une grande famille. En tant que notre sauveur, notre grand frère et notre souverain sacrificateur, Jésus veut conduire à la gloire beaucoup de fils. Hébreux 2 au verset 10. À la résurrection, ceux qui auront vraiment accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur partageront assurément la gloire de Dieu. Ils deviendront fils de la résurrection, comme Jésus, Luc 20 au verset 36. Car Jésus lui-même est né de la résurrection. Et il est appelé à deux reprises le premier-né d'entre les morts, Colossiens 1 au verset 18 et Apocalypse 1 au verset 5. Bien sûr, étant des membres plus jeunes de la famille divine, nous serons toujours soumis au Père et au Christ, dans une obéissance et un amour absolu, comme nous le lui aurons démontré tout au long d'une vie d'obéissance, de service et de succès. Le véritable christianisme, le christianisme biblique, enseigne que le royaume de Dieu sera un gouvernement littéral établi sur cette terre, au retour du Christ, au sein duquel les véritables chrétiens de notre ère serviront sous Jésus-Christ afin d'apporter enfin une paix mondiale. C'est effectivement une bonne nouvelle formidable. Le royaume de Dieu est la famille régnante de Dieu, dans laquelle nous entrerons lors de la future résurrection des morts. Le véritable évangile est stupéfiant. Chapitre 3. Le seul nom qui peut nous y mener. Pour vraiment réussir, une personne doit d'abord avoir un but ou un objectif. Dieu donne aux chrétiens le plus remarquable d'entre tous les objectifs, la vie éternelle dans son royaume. L'étape suivante consiste à apprendre comment atteindre cet objectif. Comment les saints de Dieu qui sont des êtres humains, peuvent-ils entrer dans son royaume? Que nous dit la Bible sur le chemin à prendre? Jésus déclara, je cite, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14 au verset 1 à 6. Plus tard, l'apôtre Pierre déclara, Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4 au verset 12. Le nom de Jésus-Christ est absolument essentiel. Rappelez-vous qu'il fut prêché par les premiers apôtres et évangélistes, tout comme le message sur le royaume de Dieu à venir. Nous devons avoir le même objectif. Cependant, il faut nous assurer que nous parlons du véritable Christ. De nos jours, beaucoup adorent un faux Jésus qui aurait soi-disant aboli les commandements du Père. Il est souvent représenté comme un homme frêle et efféminé, avec des cheveux longs et un regard éteint et lointain. Les gens louent son nom et éprouvent de bons sentiments à son égard. Cela représente-t-il vraiment le fait de prêcher le nom de Jésus? Non. Voyez plutôt. Non, dans la pensée biblique, un nom n'est pas un simple moyen d'identification. C'est une expression de la nature essentielle de celui qui le porte. Le nom d'un homme révèle son caractère. Ce concept était partagé par les peuples du monde antique. Ainsi, connaître le nom de Dieu signifie connaître Dieu tel qu'il s'est révélé. Psaume 9 au verset 11. La révélation complète de sa nature et de son caractère est donnée en Jésus-Christ, qui a manifesté son nom. Jean 17 au verset 6 et 26. Interpreter's Dictionary of the Bible. Le nom de Jésus inclut non seulement qui il était et tout ce qu'il faisait, mais aussi tout ce qu'il enseignait et défendait. Quelles valeurs Jésus défendait-il? Quel mode de vie était-il venu révéler? La loi du royaume. Rappelez-vous qu'une des exigences de tout royaume est de posséder un système législatif pour gouverner. Dans le royaume de Dieu, la loi suprême du pays sera les 10 commandements, la grande loi spirituelle du Dieu Tout-Puissant. Le Christ déclara aux pharisiens, La loi et les prophètes, l'Ancien Testament, ont subsisté jusqu'à Jean Baptiste. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Luc 16 au verset 16. Ou comme la Bible en français courant l'exprime dans un français plus moderne, depuis cette époque, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée, chacun use de force pour y entrer. Mais cela ne signifie pas que le message du royaume de Dieu a supplanté la loi et les prophètes. Il lui a plutôt donné sa pleine expression. Au début du ministère du Christ, Matthieu rapporta, je cite, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu 4 au verset 23. Nous savons que Jésus prêchait l'évangile ou la bonne nouvelle du royaume. Alors que nous usons de force pour entrer dans le royaume de Dieu, quelles œuvres spécifiques devrions-nous accomplir? Dans les 3 chapitres suivants, Matthieu 5 à 7, Jésus exposa un mode de vie tout entier dans ce qui est devenu le sermon sur la montagne. L'exhortation de Jésus à ses disciples d'obéir avec zèle à l'ensemble des Écritures divines est choquante pour beaucoup de gens issus du christianisme dominant, car il a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu 5 au verset 17. Le mot « accomplir » ne signifie pas « abolir », contrairement à ce que beaucoup ont enseigné à tort. Jésus magnifia, étendit la loi divine. Il montra que nous devons l'observer dans la lettre, mais aussi dans l'esprit ou dans l'intention, en ajoutant que nous devons y obéir à la fois dans nos actions et dans nos pensées. 2 Corinthiens 10 au verset 5. Par exemple, il enseigna qu'un véritable chrétien doit non seulement s'abstenir de tuer, mais il ne doit même pas entretenir une attitude de haine ou de violence. Matthieu 5 au verset 21 et 22. Jésus expliqua, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5 au verset 27 et 28. Dans son enseignement, les 10 commandements étaient le fondement du mode de vie qu'il proclamait. Ce qui comptait n'était pas seulement une croyance sentimentale dans la personne du Christ, mais un abandon total à lui et au Père, en tant que Seigneur et Maître. Dans Luc 6 au verset 46, Jésus demanda: Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il n'a jamais dit: S'il vous plaît, acceptez-moi, ne voulez-vous pas me donner votre cœur? Au contraire, le Christ nous enseigna à nous focaliser constamment sur Dieu, et il déclara: Le Père est plus grand que moi. Jean 14 au verset 28. Si chacun vivait selon le code législatif parfait de Dieu, il n'y aurait absolument aucun problème. Nous aurions une société parfaite. Mais dans l'état actuel des choses, tous les problèmes de l'homme sont le résultat des infractions à ces lois. La Bible définit clairement le péché. Le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3 au verset 4. Malheureusement, après avoir passé 6000 ans à essayer de déterminer la voie à suivre, l'humanité est encore aveugle à cette réalité. Je cite: Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14 au verset 12. Et Proverbe 16 au verset 25. L'humanité cherche la paix et l'harmonie depuis des siècles, mais elle lui échappe. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ésaïe 59 au verset 8. Malgré toutes les lois de l'humanité, celle-ci n'a pas encore trouvé un système gouvernemental qui fonctionne sans la loi divine. James Madison, le père de la Constitution américaine et le 4e président du pays, avait très bien compris ce dilemme. Je cite: Nous n'avons pas misé tout l'avenir de la civilisation américaine sur le pouvoir du gouvernement, loin de là. Nous avons misé l'avenir sur la capacité de chacun d'entre nous à nous gouverner nous-mêmes, à subvenir à nos besoins, selon les 10 commandements de Dieu. America's Christian Heritage, Plywood Rock Foundation. La loi divine est un aspect majeur de l'Évangile, car c'est vraiment une bonne nouvelle qui apporte une compréhension du mode de vie menant au bonheur parfait et durable, à l'abondance, à la paix et à la joie. Ce mode de vie fut expliqué au peuple de l'ancien Israël à travers la loi divine, mais elle ne lui procura pas un bien-être durable, parce qu'il lui manquait la foi vivante pour continuer à marcher dans les voies divines. L'apôtre Paul a écrit: Car cette bonne nouvelle, nous, les disciples du premier siècle, a été annoncée aussi bien qu'à eux, les Israélites à l'époque de Moïse. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Hébreux 4 au verset 2. La bonne nouvelle leur a été délivrée, en partie, mais ils n'avaient ni la compréhension ni la foi pour la recevoir. De nos jours, nous savons que l'accomplissement de notre potentiel humain repose sur Jésus-Christ. Il nous a montré le chemin. Lorsqu'il commença à parler du royaume de Dieu, il disait à ceux qui l'écoutaient: Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, à l'évangile. Marc 1 au verset 15. Nous devons nous repentir et croire, avoir la foi. Paul annonça le même message en prêchant le royaume de Dieu. Acte 20 au verset 25. Ainsi qu'en annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Nous devons aller vers Dieu pour obtenir son pardon, afin qu'il nous accepte. Notre première action doit être de nous repentir d'avoir transgressé sa loi spirituelle, résumée dans les 10 commandements. Se repentir signifie être profondément désolé, au point de faire demi-tour, d'aller dans la direction opposée et de commencer à obéir à la loi divine, qui transformera à jamais notre mode de vie. Nous devons aussi avoir foi en notre Seigneur Jésus-Christ, le roi du royaume de Dieu. Cela implique de croire et d'accepter Jésus comme notre sauveur personnel, comme notre souverain sacrificateur actuellement dans les cieux et comme notre futur roi. Au début de l'Église du Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre fut inspiré d'annoncer le chemin menant au salut de l'humanité. Je cite: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2 au verset 38 et 39. Pierre déclara que nous devons nous repentir et être baptisés pour la rémission, le pardon de nos péchés. Dans Jean 3, 16, Jésus dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si nous avons une foi sincère en Jésus-Christ, nous ne sommes plus redevables de la peine de mort pour avoir transgressé la loi divine, car il est mort à notre place. Les chrétiens véritablement convertis sont justifiés par son sang, Romains 5 au verset 9. Être justifié signifie être déclaré innocent, obtenir le pardon inconditionnel de la terrible peine de la mort éternelle. Cela fait aussi partie de la bonne nouvelle. Recevoir le don le plus précieux du monde. Nous devrions être profondément reconnaissants à Dieu, que nous puissions être pardonnés de nos péchés par la mort de son Fils. Mais notre justification nous autorise-t-elle à revenir en arrière et à continuer de transgresser la loi spirituelle? Absolument pas. La pure vérité que beaucoup ne semblent pas vouloir comprendre, c'est que lors de la conversion, un véritable chrétien doit se repentir réellement d'avoir enfreint la loi divine. À ce stade, il fait effectivement une alliance avec son Créateur pour cesser de pécher, pour arrêter de transgresser cette loi, les 10 commandements. Lors du baptême, en ayant la foi de recevoir la promesse du don du Saint-Esprit, un nouveau chrétien s'engage devant Dieu à cesser de pécher et à lui soumettre son esprit, sa volonté et sa vie afin que le Christ vivant l'aide à vivre une vie obéissante, en obéissant à la loi et à la volonté divine. Comme l'explique Paul, je cite, « Je suis crucifié avec Christ et je vis, non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi. » Et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Martin. C'est par Jésus-Christ qui vit littéralement sa vie en nous que nous sommes capables de garder les 10 commandements comme un mode de vie. Observons-nous parfaitement les commandements? Non. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit à la perfection, mais nous nous soumettons au Christ pour le laisser observer la loi de Dieu en nous par la puissance du Saint-Esprit. Et dans la mesure où nous nous soumettons au Christ, nous parviendrons à obéir davantage à la loi divine. Mais nous devons croître continuellement dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 3 au verset 18. À mesure que nous grandirons spirituellement dans notre vie chrétienne, nous observerons la loi de Dieu avec davantage de zèle et de foi. Comment pouvez-vous vraiment obéir à la loi spirituelle de Dieu alors que vous cherchez à imiter et à suivre votre Sauveur? Jésus-Christ a promis de vous donner le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la nature même et l'amour de Dieu. En nous donnant son Esprit, il nous engendre et il met une partie de sa puissante nature en nous. Par sa nature divine, nous sommes capables de grandir spirituellement. Le Saint-Esprit est l'esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée 1 au verset 7. L'apôtre Paul a écrit, je cite, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Romains 5 au verset 5. Comment fonctionne l'amour de Dieu? De quelle façon nous conduit-il? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5 au verset 3. Ainsi, l'amour de Dieu, transmis par l'Esprit, nous conduit à obéir aux 10 commandements, en tant que mode de vie. Cela aussi fait partie de la bonne nouvelle. C'est un aspect essentiel de l'Évangile. En nous donnant son Esprit, sa nature divine, Dieu nous aide à vaincre le péché et à croître spirituellement. Il nous rend éligibles à la vie éternelle par cette délivrance spirituelle du péché de l'emprise de Satan, le diable. Par le Saint-Esprit, il nous engendre dans sa famille. Mais notre course n'est pas terminée pour autant. Nous devons encore courir vers le but, avec sincérité, avant de naître dans le royaume de Dieu au moment de la résurrection des morts. Philippiens 3, versets 13 et 14. Cette merveilleuse bonne nouvelle que d'être délivré du péché par le Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. pour célébrer sa gloire. Éphésiens 1, versets 13 et 14. Oui, c'est aussi une bonne nouvelle de connaître réellement notre Père et notre Sauveur, ainsi que de recevoir la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de vivre la vie qu'il veut que nous vivions. Quelle bonne nouvelle pour toute l'humanité de pouvoir expérimenter la véritable joie du salut, se dévouer à un objectif, avoir l'amour et la paix d'esprit que nous n'avions jamais éprouvé auparavant. Le royaume de Dieu ne serait pas un aussi beau message si nous n'avions pas la possibilité d'en faire partie. Mais nous pouvons être reconnaissants à Dieu car, dans son grand amour et sa miséricorde, il nous a ouvert une voie, la voie par la mort et la résurrection de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Quelle incroyable et merveilleuse bonne nouvelle! Ce que Jésus-Christ fit, fait et fera. L'Évangile embrasse la totalité du plan de salut de Dieu. C'est un message centré sur l'identité et la nature de Dieu, ainsi que sur le plan qu'il accomplit à travers l'humanité. La réalisation de cet objectif pour chacun d'entre nous, individuellement, repose sur notre volonté de faire confiance à Jésus-Christ. L'Évangile révèle le mode de vie parfait qu'il enseigna, la loi de Dieu vivant décrite à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, tous deux écrits sous son inspiration. L'Évangile souligne le rôle de Jésus qui est venu en tant qu'agneau sacrificiel de Dieu, ôter les péchés de ceux qui l'acceptent comme leur sauveur personnel. L'Évangile nous montre aussi le rôle actuel du Christ en tant que souverain sacrificateur céleste qui intervient continuellement auprès du Père en notre faveur. C'est par le Saint-Esprit que Jésus vit sa vie en nous lorsque nous nous soumettons à lui. C'est ce qui nous permet d'obéir à la grande loi spirituelle de Dieu, les 10 commandements. Enfin, l'Évangile se concentre principalement sur le retour à venir du Christ, avec puissance et gloire, comme le tout-puissant roi des rois qui gouvernera ce monde et l'univers entier sous l'autorité de Dieu le Père. Ses saints, ressuscités et immortels, régneront avec Jésus-Christ pour l'éternité. L'Évangile du royaume de Dieu nous révèle un plan magnifique et prodigieux. Notre objectif est le salut par la vie éternelle dans le royaume. Et le véritable Jésus-Christ est le seul moyen d'y parvenir. Car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, du grec ensuite. Romains 1, verset 16, Osterwald. Le Christ nous a montré la voie en l'acceptant et en lui obéissant comme Seigneur et Maître, c'est-à-dire en gardant sa sainte loi, les 10 commandements, nous pourrons entrer dans le royaume de Dieu. Quelle bonne nouvelle que Dieu nous ait donné une telle voie. Celui qui a le Fils a la vie. L'apôtre Jean déclara que son évangile a été écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20 au verset 31. Dans sa première épître canonisée, il écrivit, je cite, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » 1 Jean 5 au verset 12 et 13. Le Christ nous dit à tous, « Croyez à la bonne nouvelle, à l'Évangile. » Marc 1 au verset 15. C'est-à-dire croyez à son message. Le message de la parole de Dieu est cohérent. Mais alors, comment pouvons-nous lire dans un verset « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » Acte 16 au verset 31. Et dans un autre « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements » Matthieu 19 au verset 17. Jean fut également très clair sur la nécessité d'observer les 10 commandements. Il écrivit. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice, n'observe pas la loi, voir Psaume 119 au verset 172, n'est pas de Dieu. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean 3 au verset 10 et 24. Quelle est la réponse? Le salut vient-il de ce que nous croyons ou de notre observance au commandement, par la foi ou par les œuvres? Laissons la réponse à l'apôtre Jacques. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques 2, versets 14, 17 et 19. Même les démons savent que Jésus est le Messie venu délivrer l'humanité. Mais cela ne les sauve pas pour autant. Nous devons utiliser la connaissance que Dieu nous donne. Mais, ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres, celles d'Abraham, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite? Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Jacques 2 au verset 20, 22 et 24. Osterwald. Nous voyons donc que le salut n'est pas une question de foi ou d'œuvre, mais de foi et d'œuvre. Une foi vivante et dynamique est toujours accompagnée d'une obéissance active aux lois divines. Comment l'ordre de croire en Jésus et en son message s'inscrit-il dans ce contexte? La réponse est simple. Si nous croyons réellement ce que Jésus représente et ce qu'il nous dit, alors nous lui obéirons. Cela s'accomplit lorsque nous acceptons à la fois sa personne et tout ce qu'il enseigna. Après notre repentance et notre baptême, nous recevons le Saint-Esprit, Actes 2 au verset 38, par lequel l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Romains 5 au verset 5. Jean a écrit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. 1 Jean 5 au verset 3. Comme nous l'avons déjà vu dans 1 Jean 3 au verset 24, le fait de garder les commandements est une preuve que le Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Si nous l'acceptons réellement dans notre vie, il vivra son mode de vie d'obéissance en nous, si nous faisons périr notre vieille nature et que nous nous soumettons à lui. Comme Paul l'a expliqué, je suis crucifié avec Christ. Et je vis, non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Martin. Notez ces mots, la foi du Fils de Dieu. Apocalypse 14, au verset 12, montre que la véritable Église de Dieu possède la foi de Jésus. Dans un premier temps, nous devons faire preuve de foi en Dieu. Hébreux 6 au verset 2. Mais ce n'est pas cette foi qui nous sauve. Nous devons posséder sa foi qui agit en nous, celle par laquelle il accomplissait des miracles. Cette foi fait partie du fruit de l'Esprit de Dieu. Galates 5 au verset 22. À mesure que nous exercerons cette foi en observant la loi, celle-ci augmentera, de même que notre confiance et notre fidélité en Jésus-Christ. Agir dans la foi donne vie à la foi. Il n'y a aucune contradiction ici. La foi vivante est l'obéissance active de ce qui est l'amour spirituel. Comment savons-nous si nous avons le Fils? Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. 1 Jean 2 au verset 3 à 5. Appelé à la gloire. Oui, le Christ est mort pour nous réconcilier avec Dieu, mais ce n'était pas la finalité. Ce qu'il fait actuellement à travers nous n'est pas non plus la finalité. Jésus-Christ va vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Colossiens 1 au verset 22 et 23. En tant que disciples du Christ qui lui obéissent, nous devrions toujours nous accrocher fermement à l'espérance du véritable évangile, à la formidable compréhension de notre ultime destinée. Lorsque la dernière trompette sonnera, ceux qui auront vaincu et appris quotidiennement à courir vers leur but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu, Philippiens 3 au verset 14, monteront dans les airs à la rencontre du Christ. Pouvez-vous imaginer l'intensité de l'exaltation que les saints ressentiront alors en sachant qu'ils sont désormais membres à part entière de la famille de Dieu? Ils auront enfin surmonté tous les obstacles pour atteindre leur ultime destinée, celle pour laquelle nous avons tous été créés. Pour en apprendre davantage sur ce sujet essentiel, écrivez-nous afin de recevoir notre brochure gratuite « Votre ultime destinée ». Alors que nous nous élèverons pour rejoindre le Christ dans les airs, nous réaliserons que nous posséderons le niveau d'existence divin pour l'éternité, en tant que membre de la famille de Dieu. Cet apogée extraordinaire de notre vie humaine inspira l'apôtre Paul à écrire. Je cite « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Romains 8, au verset 18 et 19. Quand le royaume sera-t-il établi? Dans Matthieu 24, au verset 36, le Christ a dit à ses disciples, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il se référait à son second avènement pour établir le royaume de Dieu sur terre. Bien que nous ne connaissions ni le jour ni l'heure exacte de l'établissement de son royaume, nous savons qu'il est proche. » Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21 nous donnent des signes à surveiller. Jésus déclara, je cite, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Et il leur dit une comparaison. « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils sont poussés, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Luc 21, versets 28 à 33. De terribles événements se multiplient aujourd'hui dans le monde. D'une certaine manière, c'est aussi une bonne nouvelle, car cela signifie que le royaume de Dieu est proche. Dans Matthieu 24, verset 14, Jésus a dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » En lisant cette brochure, vous êtes désormais en contact avec ceux qui prêchent cet évangile. Le fait que le Christ ait parlé de cette bonne nouvelle au milieu de Matthieu 24 prouve que l'évangile inclut bien les événements prophétiques précédant l'arrivée de son royaume. C'est une bonne nouvelle, parce que Dieu appliquera le seul remède efficace pour une humanité charnelle et obstinée, une prise de contrôle de la planète par la force, un coup d'état divin. De nombreux dirigeants mondiaux, de scientifiques de premier plan et d'autres hommes brillants croient qu'un gouvernement mondial unique est le seul moyen d'empêcher l'humanité de s'autodétruire. Pourtant, chacun sait qu'elle n'y parviendra jamais d'une manière juste et en faisant preuve de coopération. Seul Dieu peut y parvenir. Et ne vous y trompez pas, Dieu le fera. Alors la paix et la joie du monde nous appartiendront finalement. Quelle bonne nouvelle formidable! La prochaine fois que vous entendrez prêcher au sujet du merveilleux évangile, assurez-vous que ces personnes ne parlent pas uniquement de la première phase de la vie chrétienne, le pardon de nos anciens péchés par le sang de Jésus. Le véritable évangile représente bien plus que cela. Il va bien plus loin de ce que la plupart des gens comprennent. Les implications de la bonne nouvelle ultime sont transcendantes. Cette bonne nouvelle vous conduit à une vie glorieuse de service dans le royaume de Dieu, au cours du règne à venir du Christ sur la terre. Un service et un règne sur le vaste univers qui se poursuivront pour l'éternité. La bonne nouvelle représente tout cela. Voici quel est le véritable évangile de Jésus-Christ. Fin.